Bien. Donc, je me propose de vous montrer comment et en quoi, dans les manuels scolaires, la guerre froide conduit à une recomposition douloureuse de l'histoire de l'Europe et du monde. Un mot pour commencer de la place de la guerre froide dans les programmes et les manuels. En tant que telle, comme vous le savez, elle n'apparaît explicitement qu'à partir de 1969 en troisième et 1982, c'est la date des programmes que vous avez là, dans les programmes donc. Il est pourtant possible d'étudier ce thème dès les années 60, c'est-à-dire, pour l'exemple de la terminale, pendant la période du programme Civilisation du monde contemporain, car certains manuels y consacrent déjà quelques pages, parfois tout un chapitre spécifique du type Le monde depuis 45, bien que ça ne soit pas prévu dans le programme, ou bien également dans les chapitres civilisation, civilisation occidentale, civilisation soviétique, eh bien, il est possible de repérer des représentations directement liées à la vision de la guerre froide. Donc ici, je vais passer très vite sur le poids de la guerre froide dans les manuels, de façon à aller directement à mon propos, qui est de décrypter cette place. Comment expliquer cette place très importante de la guerre froide dans les manuels ? C'est que, sans parler de l'importance en tant que telle des événements dans l'histoire du XXe siècle, le discours sur la guerre froide met en jeu la question de l'identité même de la France et de l'Europe. Alors, comment ce discours identitaire s'exprime-t-il ? Nous verrons tout d'abord comment, par le moyen d'un véritable réseau d'images, enrichi et alimenté des concepts universitaires et idéologiques, successifs, le discours sur la guerre froide renvoie à la notion centrale de partage du monde. Puis, nous nous attacherons à montrer comment ce thème du partage du monde joue à l'échelle européenne en opérant de la France vers l'Europe un véritable transfert identitaire. Commençons donc par le monde de la guerre froide. Et tout d'abord, un événement fondateur, la conférence de Yalta. Selon le mot de Raymond Aron, la conférence de Yalta représente pour les Français le mythe du péché originel, qui consacre donc le partage de l'Europe. Ce mythe de Yalta vient de l'interprétation du général de Gaulle, vexé que la France n'y ait pas été conviée, inquiet de l'influence future de la France en Europe et dans le monde. Ce mythe fut également véhiculé par des ouvrages grand public, par exemple celui d'Arthur Comte, Yalta ou le partage du monde, paru en 1964. Cette interprétation est encore très vivante aujourd'hui, comme en témoignent ces propos de Michèle Alliot-Marie, alors ministre française de la Défense, dans un entretien sur la défense européenne accordé au journal Le Monde le 11 février 2005. Elle dit « Je ne pense pas qu'il soit sain d'envisager une sorte de nouveau Yalta, de répartition de compétences en fonction de zones géographiques entre l'Union européenne et l'OTAN. » Donc Yalta égale partage. Cette représentation de Yalta doit-elle quelque chose au discours des manuels scolaires ? Toujours est-il que pendant une première période, celle des années 60 à 80, un très grand nombre de manuels relaient ce mythe du partage. Cette chronologie propose une périodisation du traitement de Yalta dans les manuels. Des années 60 à 80, la majorité des manuels, diffuse le mythe du partage. À partir des années 80, les manuels s'attachent à déconstruire le mythe. Et puis enfin, depuis les années 90, nous constatons un relatif effacement de l'événement dans les manuels. Pour les manuels de la première période, celui de Fernand Braudel, paru en 1963, est un bon exemple. Ce chapitre est illustré par deux photographies, que voici. Churchill, d'abord, très imposant, celui qui a eu raison avant les autres, nous dit la légende du manuel. Et Staline, que la photo présente ici, à mon sens, sous un angle très petit père des peuples, plutôt rassurant. Mais quand on feuillette les pages, on constate qu'il manque le troisième protagoniste. Pas de photo de Roosevelt, ni de notice biographique. De fait, l'image de Roosevelt est très négative dans ce manuel. Brodel même fait référence aux critiques américaines du personnage qui lui reproche d'avoir fait trop de concessions à Staline. Pour donner un exemple du ton, je cite un bout de phrase, « Faire don de la moitié de l'Europe aux soviétiques, voilà qui éloigne fortement du sacro-saint principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. » Faire don de la moitié de l'Europe aux soviétiques. Dans les années 80, la conférence occupe encore une place plus importante. Nous passons de 0,75 pages en moyenne avant 80 à plus de 2,25 pages en moyenne dans les manuels des programmes de 82. C'est qu'il s'agit ici donc de déconstruire le mythe du partage de Yalta et les manuels s'y emploient explicitement. Le texte auteur propose alors des paragraphes très développés au titre très explicite. Je vous en donne deux exemples. « Le partage de Yalta n'a pas eu lieu », c'est un titre, hein, chez Belin en 83. Ou bien, chez Magnard, toujours en 83, « Yalta ou le non-partage ». Voici un exemple du manuel Bordas, toujours l'année 83, c'est-à-dire la première année des manuels de ce programme. Donc, je vous laisse lire la phrase, hein, « Au lendemain de la guerre, des controverses s'élèveront sur la signification de Yalta ». Donc, et vous voyez la fin de la phrase, ne donne lieu à aucun accord, non, aucun accord ne concrétise un nouveau partage du monde. Les manuels proposent également de très nombreuses double pages dossiers où les élèves sont amenés à travailler sur des documents et à les confronter. Chez Belin en 83, ce dossier s'intitule très explicitement « Réalité et mythe ». Donc depuis les années 90, je reviens sur ma chronologie, on a une dernière évolution avec le relatif effacement de Yalta dans les manuels qui retombe à environ une page et dont le texte auteur lui-même ne consacre plus que deux ou trois lignes. Hein. Le manuel franco-allemand de 2006 est bien représentatif de ce discours français. Par exemple, voilà ce que, la seule passage, le seul passage sur Yalta dans les textes auteurs. Yalta n'a pas été un partage du monde, mais a consacré le rôle prépondérant que les deux superpuissances, États-Unis et URSS, exercent dorénavant sur la scène politique mondiale. Donc, deux symboles de partage du monde et de partage sans nous, la conférence de Yalta est devenue l'illustration de la perte de la prééminence, non seulement de la France, mais en fait de toute l'Europe sur les affaires du monde. Elle reste liée à l'idée que désormais, les décisions sont prises ailleurs. La présence permanente de la photographie, là celle-ci par contre, on la retrouve toujours, hein, y compris dans les manuels les plus récents, contribue d'ailleurs probablement, pour nous Français, à entretenir une certaine ambiguïté de sens. Mais que se passe-t-il quand le mythe de Yalta disparaît des manuels? Eh bien, le mythe du partage lui-même n'est pas pour autant abandonné, il se réincarne dans les événements, les objets, les lieux, les personnages de la guerre froide. Premier exemple, la crise de Suez. On constate, donc j'en suis à mon petit 2, donc, la crise de Suez, on constate donc, à propos de cette crise, un glissement de sens au cours du temps. Dans les manuels des années 60 et 70, l'événement est surtout abordé comme un épisode de la décolonisation. Ici, le manuel de 62, donc Attier, il est bien évident que les peuples libérés ne sont pas souvent capables de marcher sans tuteur et l'anticolonialisme était pour ces grands États un moyen de chercher à substituer leur domination économique, voire politique, à celle de l'ancien colonisateur. Voilà ce qu'on apprend sur la crise de Suez. Tandis qu'à partir des années 80, l'événement, toujours replacé dans le contexte de la guerre froide, est souvent mis en parallèle avec la répression du soulèvement de Budapest, devient une illustration du condominium. Voici cette fois donc le manuel Nathan 95. Suez et Budapest illustrent ainsi, à leur manière, la double hégémonie qui structure le monde à la fin des années 50. Bien entendu, l'expression condominium, popularisée en 74 par Michel Jobert, est ici employée de façon anachronique. C'est moi qui l'emploie. Ce condominium, qu'on ne dit pas encore ainsi, donc, prend ensuite une réalité concrète avec ce que les manuels appellent très souvent le fameux téléphone rouge. La crise des fusées est évidemment très fréquente, très présente dans les manuels, et la carte du rayon d'action des missiles de Cuba est une des images les plus reproduites. Mais c'est surtout le téléphone rouge, donc une ligne directe Moscou-Washington, qui fait vraiment figure d'image symbolique. Un symbole qui a l'avantage de s'appuyer sur un objet concret qui en devient presque mythique. Le téléphone rouge, en fait un télétype, là je cite un manuel, mais c'est toujours comme ça qu'on en parle, hein, est présent dès les rééditions des manuels de 62, hein, donc à partir de 66 par exemple, on voit apparaître des rééditions de ces premiers manuels, mais son évocation devient incontournable à partir des manuels des années 80, et son succès ne se dément plus par la suite, comme vous pouvez le voir ici avec quelques extraits. Donc je vous lirai seulement le premier. Dès juin 1963, il est convenu d'établir entre Moscou et Washington un système de liaison par télétype, le fameux téléphone rouge. Voilà. Alors, le téléphone rouge est le symbole de la détente, mais c'est aussi le symbole du partage du monde et du condominium. Un mot, alors le mot condominium lui-même, hein, tout comme l'expression monde bipolaire, qui entame une florissante carrière dans les manuels à partir de ce moment-là. On va l'employer très fréquemment. Chez Istra, en 90, le traité soviéto-anglo-américain interdisant les explosions nucléaires dans l'atmosphère et signé à Moscou en 63 est même qualifié de « nouveau Yalta ». Le partage du monde s'incarne donc dans un événement, on vient de voir Suez, dans un objet symbolique, le téléphone rouge, mais aussi dans des personnages, ou plutôt ici un couple de personnages, comme à propos de la rencontre Brezhnev-Washington en Nixon à Washington en 73. Alors voici ce qu'en dit le manuel Nathan en 83. Les deux puissances sont au moins d'accord sur un point. Le sort du monde se règle entre elles, entre le dialogue direct des deux puissances nucléaires. Pour récuser cette thèse, Raymond Aron faisait pourtant remarquer à l'époque que, je le cite, « comme Yalta, la rencontre de Washington semble entrer dans la légende avant d'entrer dans l'histoire ». Ce qui n'empêche pas la très grande majorité de nos manuels dans les années 80 d'illustrer la détente par cette photographie. Cette vision du rôle des deux grands est d'ailleurs relayée dans d'autres chapitres par le discours sur les États-Unis qui n'est pas exempt d'un certain anti-américanisme exprimé de façon plus ou moins explicite, jusque d'ailleurs les manuels les plus récents, même si c'est plus soft, on va dire. Ainsi, à l'occasion du chapitre sur les modèles idéologiques prévu au programme de terminale à partir de 1995. Bien souvent, le mot « modèle » est employé dans son sens courant, symbole d'exemple à suivre, d'objet à imiter. Or, se demander, comme le font la plupart de manuels, si la démocratie américaine est un exemple pour l'Europe, c'est non seulement donner une certaine image de cette superpuissance, mais c'est aussi s'interroger sur ce que pourrait bien être un « modèle européen ». Le mythe du partage est donc la clé de lecture du monde de la guerre froide, un monde dans lequel la France n'a plus à jouer qu'un rôle mineur, celui du voltigeur, selon le mot de Michel Jaubert en 1974 à la conférence d'Helsinki. Mais la guerre froide n'est pas seulement un partage du monde, c'est également un partage de l'Europe. Cette frontière imposée génère alors une véritable interrogation sur l'identité européenne elle-même. Dans les manuels de terminale des années 60 et 70, le problème est sous-jacent, mais omniprésent. Bien qu'il ne soit jamais clairement exprimé, il se pose de la façon suivante. Y a-t-il une ou deux Europes ? En effet, les programmes de cette époque, rédigés sous l'influence de Fernand Braudel, comme vous le savez, stipulent d'étudier les civilisations du monde contemporain, parmi lesquels le monde communiste européen. Un paradoxe, puisque le concept de civilisation suppose un ancrage très ancien dans le temps. Or, comme le dit par exemple Manuel Hachette en 1962, ce monde communiste date d'hier. L'URSS naît après 1917 et les démocraties populaires après 1945. Comment résoudre ce problème ? En allant chercher loin dans le temps la coupure de l'Europe. Par exemple, donc voilà la suite de la phrase, il n'est pourtant que la forme la plus récente d'un monde aussi vieux que l'Occident européen. Voilà. On s'attache alors à décrire une civilisation de l'Europe de l'Est culturellement distincte de celle de l'Ouest, en particulier dans le domaine religieux. Remarquons aussi dans cette phrase l'assimilation de l'Europe orientale à tout entière, l'Europe orientale tout entière à la Russie. Cette interprétation a d'ailleurs encore ses défenseurs aujourd'hui. Dans son ouvrage « Fronts et frontières », la réédition de 1991, le géographe Michel Fouché soutient que, je cite, « la véritable frontière de l'Europe est socioculturelle et coïncide avec la limite religieuse la plus durable en Europe, celle qui sépare depuis le grand schisme de 1054 la chrétienté latine de celle de l'Orient. Rome et plus tard Wittenberg d'un côté, Byzance et Kiev de l'autre. » Dans la même période, pourtant, c'est-à-dire les années 60, d'autres manuels, comme le De la Grave de 1962 et ses rééditions successives, affirment le caractère unitaire de l'Europe. Le monde communiste européen est défini uniquement par son appartenance à un système politique. Je cite, « Le monde communiste comprend l'ensemble des 9 pays d'Europe orientale où les partis communistes sont au pouvoir. Il fait fondamentalement partie de l'Europe. » Son caractère distinctif est uniquement déterminé par son histoire récente. La civilisation soviétique débute directement avec le marxisme. Ainsi, pour le manuel Bordas, ce qui rapproche des pays aussi différents que la Pologne, la Roumanie, l'Union soviétique, c'est, je cite, « la conséquence du rattachement à un même système, le marxisme », en lettres capitales dans le texte. Une Europe ou deux Europes, donc ? La réponse à cette question dépend de l'interprétation du conflit Est-Ouest. Si la coupure de l'Europe est bien antérieure au rideau de fer, s'il y a continuité entre la Russie et l'URSS, la guerre froide est un conflit de puissance, un conflit géopolitique, voire un conflit de civilisation. Si le rideau de fer est une coupure récente, le conflit est idéologique. Et l'Europe se trouve dramatiquement coupée par une frontière absurde, comme disent de nombreux manuels alors. À partir des années 80, les programmes abandonnent l'histoire des civilisations pour privilégier l'étude du temps présent, bien dans la lignée du courant historiographique qui se développe alors. La vision idéologique du conflit est désormais privilégiée et l'Europe est devenue l'enjeu d'une guerre de modèles idéologiques, le théâtre d'un conflit entre démocratie et totalitarisme. Dans les manuels les plus récents, le totalitarisme est incarné par une des images les plus fréquentes de la guerre froide, au point d'en constituer ce que j'ai appelé une image type, décidément, le char soviétique. Le char soviétique, comme symbole de la répression, commence à apparaître en 1956 dans les manuels, et se renforce au fil du temps, notamment, bien sûr, avec l'épisode tchécoslovaque. Dans les manuels de terminale du programme de 88, le nombre moyen de photographies du char soviétique se situe à 2,25 par manuel, 2,25 photos par manuel. Cette forte présence est corrélée à l'apparition du concept de totalitarisme et la présence de l'image du dissident. La relative diminution, comme vous pouvez le voir dans les manuels du programme de 1995, est l'effet, c'était aussi ce que je voulais montrer dans la première image, dans le premier diagramme, à mon avis l'effet d'une vision plus globale de ce programme. Hein. Tandis que la remontée de l'incidence dans les manuels du programme de 2002 est sûrement due à l'apparition d'un chapitre spécifique sur l'Europe de l'Est, hein, l'Europe de 1945 à 1989. Ces photos sont relayées par le texte auteur qui souligne et dramatise l'événement. Ainsi, chez Nathan 89, à propos de la Hongrie, ce sont, je cite, « les chars soviétiques qui interviennent alors et qui noient dans le sang cette tentative d'autonomie ». L'expression « chars soviétiques », comme très souvent dans les manuels, est en gras dans le texte. Mais, plus que l'événement lui-même, c'est le concept de répression qui est illustré, et mieux encore celui de totalitarisme. Du coup, les lieux et les moments se confondent. Les photos illustrent indifféremment les événements de Berlin en 1953, Budapest en 1956 et surtout ceux de Prague, même si d'ailleurs il n'y a pas eu, dans ce cas-là, de réel combat de rue. Cette double page du manuel Nathan, collection Le Quintrec en 2004, est à cet égard particulièrement intéressante. Le monde communiste européen d'Emmanuel des années 60 est devenu, conformément au nouveau programme, le temps des démocraties populaires, c'est-à-dire celui des chars soviétiques. On a donc cette fameuse photo qu'on revoit fréquemment, et puis la fin, vous voyez, avec les chars qui sont embarqués pour repartir vers la Russie. Cette évolution de la vision du conflit Est-Ouest et par conséquent de la définition même de l'Europe se lit également très bien dans la mise en scène du rideau de fer. Donc j'arrive dans ma vision du rideau de fer. Cette expression « rideau de fer » est utilisée dans les manuels dès les années 60, mais surtout comme une formule journalistique que l'on reproduit avec précaution. On la met entre guillemets, on la qualifie d'expression populaire ou bien d'expression habituelle. Le rideau de fer, sans guillemets cette fois, se généralise dans les manuels des années 80. Les auteurs n'hésitent plus à utiliser le mode journalistique et même le ressort dramatique, comme pour le discours de Fulton, lui aussi pièce incontournable du réseau d'images de la guerre froide. Même évolution pour la représentation visuelle du rideau de fer. La représentation cartographique sous la forme d'un figuré linéaire est assez récente. En effet, dans les années 60 et 70, le rideau n'apparaît qu'implicitement sur les cartes d'Europe. Cette carte-ci s'intitule « Les deux Europes » avec un « S » au pluriel, ce qui est assez fréquent dans les manuels des années 60, de géographie comme d'histoire, contrairement à ce que dit Jacques Lévy, pour qui le pluriel Europe n'apparaît seulement qu'après la chute du mur. Moi, je le trouve dans les manuels de 62. Donc, même chose sur cette carte du manuel de terminal Belin en 83, issue du chapitre intitulé « Et l'Europe ?», point d'interrogation, c'est le titre du chapitre. Elle montre les différentes organisations économiques et leur évolution. Le rideau de fer n'est pas mentionné. Et si le CAEM est bien en rose et la CE en vert, les pays membres de l'AELE se voient attribuer une couleur orange qui ne tranche pas franchement sur le rose du CAEM. Bien sûr, le choix des figurés cartographiques ne dépend pas obligatoirement des auteurs. Il n'empêche que nous remarquons que cette carte ne met pas en avant la coupure entre deux systèmes socio-économiques différents. Ce n'est pas vraiment ce qu'on lit immédiatement sur la carte. Plutôt, à mon sens, la diversité, voire la dispersion européenne. La carte de 89, toujours chez Belin, présente une première évolution. Elle ne s'inscrit plus dans le même discours, puisqu'il s'agit là de montrer une Europe déchirée par la guerre froide, ce que d'ailleurs laisse bien entendre le titre « Les deux Europes 48-53 ». C'est le titre du chapitre. Les lignes du pont aérien pendant le blocus de Berlin sont portées, les organisations économiques y figurent également, mais cette fois sous les rubriques « bloc occidental », « bloc oriental ». Et fort logiquement, donc, le réseau d'auteur est tracé et nommé dans la légende. Vous voyez, cette fois, il apparaît bien. La vision propose une coupure idéologique de l'Europe, ce que souligne encore davantage un choix de couleurs plus tranché, mettant bien en valeur les deux blocs et les pays neutres. Bon, ça correspond bien sûr aussi à l'évolution de la cartographie elle-même dans les manuels. En 95, la carte s'est encore simplifiée, donc c'est toujours chez Belin. L'argumentation met uniquement l'accent sur la présence des deux blocs et le conflit idéologique. Le titre du chapitre, cette fois, c'est « L'Europe des blocs en 55 ». C'est le titre de la carte, pardon. Et ce ne sont plus les organisations économiques qui sont figurées, mais les organisations militaires. L'épisode du blocus a disparu. Par contre, le rideau de fer est non seulement figuré, mais il est beaucoup plus lisible. Supposé de mémorisation et propre à l'intériorisation d'un repère identitaire, la carte vise à fixer chez les élèves des repères temporels, spatiaux et culturels. La représentation cartographique contribue donc à créer une image mentale forte, au point de faire du rideau de fer le véritable symbole de la guerre froide. Désormais parfaitement identifiable, il est donc devenu un outil pour penser le monde. Par contre, à trois exceptions près, il n'y a pas dans tout le corpus étudié de photographie du rideau de fer. La seule image surmédiatisée, celle-ci, est celle, bien sûr, du mur de Berlin. Le programme de troisième, encore en vigueur actuellement, demande de traiter la guerre froide à l'échelle de l'Europe, et le discours de Kennedy devant le mur en 1963 est un des documents obligatoires. Les manuels proposent très souvent, comme ici chez Belin, une double page dossier ou document. Nous voyons là une bonne illustration des différentes échelles de la division. Berlin, avec le plan, les deux photos du bas, celle du bas sur votre diapo, et avec la dimension humaine et dramatique, hein, qui est toujours mise en avant. Autre échelle, l'Allemagne, avec la succession de cartes sur la page de gauche, et le monde, avec la photo de Kennedy lors du fameux discours. Il manque une échelle, ici, c'est l'échelle européenne. Le mur de Berlin n'est-il pas une frontière européenne ? Ben, c'est que la symbolique du mur de Berlin, à mon sens, est ailleurs, ici. Plus que le symbole du partage de l'Europe, elle est en fait, comme le char soviétique, une métaphore de la division du monde. Donc, j'en arrive à ma conclusion. Le discours sur la guerre froide tend donc à recomposer une image du monde et de l'Europe. À l'échelle du monde, la crise de Suez administre la preuve de la mise à l'écart de la France et de l'Europe, une blessure d'amour-propre et la marque de l'abandon de l'Europe par les Américains. De même que la photographie des deux grands au balcon, comme nous l'avons appelée, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Contemporaine de la naissance de l'expression condominium, les manuels des années 80 à aujourd'hui la diffusent abondamment, cette photo des deux grands, et elle illustre bien ce sentiment de relégation que peut ressentir un Français ou un Européen au spectacle de cette photographie. Elle est en cela un remarquable écho de celle de Yalta. À l'échelle de l'Europe, elle a pour enjeu la fixation, le discours a pour enjeu la fixation de nouveaux repères géographiques, politiques et culturels et soulève la question de l'identité européenne. Ce thème est particulièrement présent dans les manuels des années 60 et 70. Même s'il diminue dans les années 80 au profit d'une vision géopolitique plus mondiale, la question des enjeux de la construction européenne et de la place de l'Europe entre les deux grands reste cruciale, comme le montre le thème du pont aérien. Cette photographie prend une place remarquable dans les manuels depuis les années 80. Elle est présente dans 65 à 70% des manuels de terminale et dans 75% des manuels de troisième actuel. Elle est donc encore aujourd'hui extrêmement porteuse de sens. Elle raconte une Europe incapable de se relever elle-même de ses ruines, obligée d'en appeler aux Américains véritables vainqueurs de la guerre. L'avion atterrissant sur l'aéroport de Tempelhof est le symbole de la puissance militaire, mais aussi du machinisme, de la prouesse technologique et organisationnelle des États-Unis. Image ambiguë, cette photo est à la fois le symbole d'une Amérique championne du monde occidental, mais aussi d'une Europe désormais sous tutelle. Que reste-t-il alors de l'Europe ? Sa civilisation, le raffinement de sa culture, son sens des valeurs humaines, nous disent les manuels de 62. Ce qui rend la coupure représentée par le rideau de fer d'autant plus difficile à accepter et oblige les Américains à se redéfinir. Qu'est-ce que la civilisation européenne ? D'où l'incarnation dans la communauté européenne. L'Europe, dans les manuels, à partir des années 60 déjà, c'est de plus en plus l'Europe de l'Ouest. Si la France elle-même apparaît très peu dans les chapitres « Guerre froide » des manuels, sinon en quelques lignes à propos de la politique du général de Gaulle, c'est qu'en réalité, face au déclin de l'Europe et au défi du leadership américain, les manuels et les programmes français font clairement le pari de la construction européenne. Un glissement s'est donc opéré du récit national vers celui de l'identité européenne. Je vous remercie, j'ai terminé.